Édicte par le père Philippe à Rimont, le 25 avril 91.
Vous avez dit, si j'ai bien compris, j'espère, que l'union des époux est témoignage comme signe d'union intime du Christ et de l'Église, au sein même de l'Église. Ceci en vertu du sacrement, tandis que la vie religieuse en donne la réalité profonde. Le sacrement ne réalise-t-il pas ce qu'il signifie? Et en conséquence, l'union des époux n'est-il pas plus qu'un signe? C'est un signe divin. J'espère que vous avez compris. Donc c'est plus qu'un signe. Ça n'empêche pas que ça reste un signe. Le signe reste le signe. Reste un symbole. Que toute la tradition a bien montré le parallélisme de la vie religieuse et du mariage de cette manière. C'est très intéressant, du reste, c'est très beau, au plan théologique. La vie religieuse continue le mystère de Marie. C'est ce que j'essaie de faire à Saint-Jean-d'Arc pour le noviciat cette année-ci. D'essayer de comprendre comment c'est Marthe qui m'a dit ça. Père, reprenez tout le mystère de la vie religieuse dans la lumière de Marie. Je le faisais déjà, mais Marthe m'a insisté. Poussez, poussez. Il faut le renouveau de la vie religieuse. Et le Saint-Père nous a demandé, nous l'a dit. Et il m'a dit que je pouvais le répéter. La communauté Saint-Jean devait être le renouveau de la vie religieuse. Et Marthe avait dit, c'est curieux, parce que le Saint-Père ne savait pas. Marthe avait dit ça. Alors le renouveau de la vie religieuse, voyez, c'est simple, je vous dis, puisque il n'y a pas de secret entre Saint-Jean-d'Arc et Rimont, puisque on veut qu'il y ait l'unité des deux maisons de formation. Alors, vous avez consécration de Marie. C'est consécration personnelle. C'est caché. Vous avez la rencontre Maria-épousaille avec Joseph. Vous avez l'annonciation mère de Dieu. Vous avez la croix. Vous avez la Pentecôte. 1, 2, 3, 4, 5. Notre vie religieuse doit avoir 5 dimensions. Oui, si vous le comprenez bien. Toujours par rapport. Marie nous a montré cela d'une façon pédagogique. Sainte Famille. Marie, c'est la Sainte Famille. Vous comprenez bien. C'est la mère qui fait la famille, comme nous le verrons. Toujours. Et la Sainte Famille, c'est Marie. Elle a un fruit unique. Et elle a un mari unique. Donc c'est la Sainte Famille. C'est extraordinaire. On ne peut pas avoir mieux que Jésus. On ne peut pas avoir mieux que Saint Joseph. Elle monte du désert appuyée sur son bien-aimé. Elle en a deux bien-aimés, Jésus et Joseph. Et dans son cœur, ça ne fait qu'un. Alors, vous voyez, la consécration personnelle, bon, ça, le secret. La consécration des vierges, on reprend ça aujourd'hui. Les mariés cachés. Et toute vie religieuse implique une consécration, selon un esprit virginal. Et pour avec Joseph, comprenez que si Marie avait été sous le point de vue du droit canon, Joseph aurait disparu. Elle est avant le Saint-Esprit d'intelligence. C'est la consécration, Marie. Consécration. dans un abandon total. C'est le propre de la consécration. La consécration ne nous met pas dans un étang, au sens strict. C'est le bon plaisir de Dieu. Charité fraternelle. Plus on est donné à Dieu, plus la charité fraternelle doit être forte. Saint Thomas n'hésite pas de dire qu'entre Joseph et Marie, il y a la plus grande amitié qui ait existé entre deux créatures. La plus grande amitié. Maxime est allé dans l'ordre de la filia. C'est très beau, ça. C'est ça, admirable. C'est très audacieux de la part de Saint Thomas de dire ça. Je crois que c'est très juste. La filia parfaite, elle est réalisée entre Joseph et Marie. Et elle est consacrée à Dieu. Et ça n'amène rien à sa consécration, cette charité fraternelle. Parce que Joseph comprend et respecte. Maternité, l'état. Elle est dans un état, là. La maternité divine la met dans un état. C'est tout son être, c'est tout elle-même qui est prise, qui est saisie, relativement à Jésus. La vie religieuse implique un état de vie. Et l'état de vie nous met proche du mystère de la maternité divine de Marie. Oui, c'est la différence entre la consécration privée et l'état de vie. La consécration privée est l'épanouissement ultime de toute la grande attente de l'Ancien Testament. C'est encore une attente. L'état de vie montre une manifestation, un témoignage. Marie est mère de Dieu. Et la vie religieuse, elle nous met le plus proche possible de ce mystère, de l'état de la maternité divine de Marie. C'est pour ça que la vie religieuse, ordinairement, est mieux vécue chez les femmes que chez les hommes. C'est comme disait toujours le Père de Haut. Il disait ça. C'est regardons toujours la vie religieuse chez nos saintes religieuses. Et la vie religieuse est souvent mieux vécue. C'est vrai. Les hommes ont beaucoup de peine hein, de vivre ce mystère de la maternité divine de Marie. Les hommes vont à la chasse, voulez-vous. Alors, c'est plus difficile, beaucoup plus difficile. Cet état de vie va impliquer un lien très particulier avec Jésus Rédempteur, Sauveur. La vie apostolique. On est lié à la croix. On doit sauver le peuple de Dieu. Alors on le sauve d'abord par le mystère de la compassion. Et la Pentecôte nous met dans l'Église, sous le souffle de l'Esprit Saint, pour que cette union avec Jésus mystère de compassion se réalise de manière efficace. Mais l'union affective, Alors vous voyez, comme pour nous, comme c'est parlant, Marie doit nous aider à vivre ces cinq moments. C'est un excellent examen de conscience pour se préparer à la profession perpétuelle. Oui, c'est pour ça que je vous le dis. Parce que c'est... qu'à réfléchir là-dessus. Mais une retraite de 5 jours. Hein, auprès de Marthe. Parce que c'est Marthe qui l'a demandé. Ça, je vous le certifie. Me l'a demandé à moi. Elle a dit, il faut reprendre toute la vie religieuse dans la lumière de Marie. J'essayais de le faire. J'ai en parlé à Marthe. Marthe m'a dit, faites ça, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et le pape nous demande renouveau de la vie religieuse. Alors réfléchissez. Parce que c'est très beau de voir l'incarnation de la consécration dans un état de vie religieuse. Mais et ça implique une vie communautaire, la Sainte Famille. Il y la lune. Marie n'a pas été au désert. La vie commune. Elle a vu le désert intérieur, le désert de Dieu. Mais c'est la vie commune, et la vie commune, c'est faite avec le mystère de la maternité divine de Marie. Ça qui a stabilisé. La vie commune stabilise. Dès qu'il n'y a plus de vie commune, il n'y a plus de stabilité. La stabilité, c'est la vie commune. Une vie commune consacrée à Dieu, dans la charité, avec tout ce que ça implique. Marie devait faire la cuisine. Ça fait partie de la vie commune. C'est pour ça que quand il n'y a pas la cuisine, c'est ennuyeux. Il manque quelque chose à la vie commune. Quelque chose qui manque. Parce que c'est, ça doit être quelque chose qui donne la stabilité plénière. Et puis alors, le mystère de la croix. Alors toute la vie apostolique de Jésus est ordonnée à la croix, ordonnée au mystère de la compassion. Et le mystère de la Pentecôte qui envoie. Alors, vous comprenez maintenant que la vie religieuse est reliée directement à Marie. Et Marie, dans l'économie divine, et, comprenez bien, antérieure au sacrement. Puisque c'est la grâce sanctifiante, Marie. C'est la plénitude de la grâce sanctifiante. Et la vie religieuse relève de la plénitude de la grâce sanctifiante. Les sacrements, c'est pour les différentes étapes de la croissance de la charité. Ça ne saisit pas la substance, si j'ose dire, de la grâce sanctifiante. Le sacrement de mariage présuppose le sacrement de baptême. Il ne faut jamais l'oublier. Et le baptême unit chaque membre directement au Christ. C'est pour ça que le sacrement de mariage ne remplace pas ce que je dis toujours à l'abbé Caffarel. Parce que quand fois, il voulait que l'union... Le sacrement de mariage presque reprenne tout et fasse que les deux saintetés soient unies. Il dit, mais non, la sainteté de l'homme et la sainteté de la femme ne sont pas toujours en parallèle. L'expérience commune qu'on connaît bien. Oui, des quantités de femmes qui désirent être oblates et leur mari ne veut pas. Ça arrive à tous les tournants de la vie chrétienne, ça. Il faut attendre 4, 5, 6 ans pour que le mari accepte. Elle dit, il faut quand même qu'on soit ensemble. Ce n'est pas nécessaire, puisque l'homme nature n'est pas familial. Ce n'est pas un sacrement. Du sacrement de mariage, l'homme nature relève de la grâce sanctifiante et de la vie religieuse. De l'esprit de la vie religieuse. Mais je comprends très bien que c'est mieux. Oui, c'est mieux. Et ça peut très bien se faire si le mari dit, oh, moi, c'est ton histoire, ça te regarde. Ce qu'ils disent ordinairement, ça te regarde. Je serai pas là, ça te regarde. C'est ton histoire. Il y a des maris qui sont très jaloux de ça. Parce que ça va te lier à la vie, à la communauté, plus qu'à moi. Tu vas être tellement prise par les communautés, par ces jeunes religieux, parce que tu n'as pu me regarder. Alors il ne faut pas que ça fasse un drame familial. Mais c'est toutes ces choses-là qu'il faut comprendre et qui obligent de voir où ça s'enracine. L'oblation ne s'enracine pas dans le sacrement de mariage. Non. L'oblation s'enracine dans la grâce sanctifiante et le baptême. Alors vous voyez, les sacrements présupposent toujours la grâce sanctifiante. Ça, il faut bien comprendre ça. On est prédestiné à être enfant de Dieu. Et ça, c'est la prédestination. Et plus radicale que les sacrements. Forcément. Tous les sacrements sont ordonnés à ça. Ce sont des signes, ce sont des moyens, les sacrements. Tandis que la grâce sanctifiante n'est pas un moyen. Alors, la vie religieuse est un moyen, mais c'est un moyen qui est directement lié à la grâce sanctifiante et à la croissance de la grâce sanctifiante pour que nous puissions vivre pleinement et totalement de la grâce sanctifiante, donc de la contemplation. chose implique dans sa structure la contemplation. On ne peut pas exister sans la contemplation. C'est pour ça que l'Église n'aime pas des religieux qui se consacrent uniquement pour une œuvre. Tout à fait juste. Nos vœux ne peuvent être vécus que s'il y a la contemplation. Donc ils ne peuvent pas être vécus. Ils deviennent des obstacles. Les vœux sont des obstacles à le point de vue d'une œuvre. Ça, c'est sûr. Mais sont ce qui permet de vivre pleinement la contemplation. Tandis que le mariage fait une œuvre. Le foyer, c'est une œuvre. Et les sacrements sont donnés pour les différentes étapes de notre vie. Donc, il ne faut pas opposer dialectiquement, grâce sanctifiante des sacrements. Mais il faut ordonner. Il faut voir que la vie religieuse est enracinée directement dans la grâce sanctifiante. Et les sacrements sont donc pour la croissance de notre grâce sanctifiante. S'il y a des questions là-dessus, il faut les poser tout de suite, parce que c'est très important de voir ça clairement. Vous voyez, je sais très bien que c'est assez délicat de temps en temps de voir exactement. Vous voyez, c'est sa fameuse question, vous savez, du sacerdoce royal des fidèles. Le sacerdoce ministériel repose sur le sacrement. Ça, c'est sûr. Et le sacerdoce royal des fidèles, il repose sur quoi? Alors, on dit le sacrement de baptême. Et fondamentalement sur la grâce sanctifiante. Le baptême permet l'exercice. Mais alors, c'est toute la question. C'est très délicat, mais c'est très important. Parce que tous les textes de l'enseignement d'Église, c'est toujours le baptême. Mais les textes de l'Église ne sont pas la théologie. Le théologien doit préciser et comprendre l'enseignement d'Église. Ce n'est pas la théologie qui est au-dessus. Et l'enseignement de l'Église, c'est pour nous permettre de mieux comprendre l'Écriture. Et la théologie est là pour mieux comprendre. Notre grâce sanctifiante, on le verra avec le traité du Christ. Parce que ça, c'est très très important. Et c'est à partir du traité du Christ, de la christologie, qu'on peut comprendre cela. Il faut tout le temps remonter à Jésus, à la source. Bon, alors, il paraît qu'il y avait une petite difficulté la dernière fois. Oui, pardon.
Quand vous dites que la grâce sanctifiante n'est pas un moyen,
vous voulez... La grâce sanctifiante, c'est notre fin. C'est notre vie. Est-ce que votre vie, c'est un moyen?
Mais...
C'est ma vie, la grâce sanctifiante.
La grâce en tant qu'auxilium divin, c'est...
Ah, en tant qu'auxilium, mais il y a la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est ma vie. Je suis enfant de Dieu par ma grâce. Or, être enfant de Dieu, c'est bien ma fin.
Mais c'est la fin de la grâce, non ? Être enfant de Dieu.
C'est la grâce. C'est la grâce qui me fait enfant de Dieu. C'est pas extrinsèque à la grâce. Participation à la nature de Dieu. C'est comme si vous disiez que la nature de Dieu était finalisée par le bonheur de Dieu. La grâce sanctifiante, c'est ce qui me constitue comme chrétien, comme enfant de Dieu. Donc c'est pas un moyen. Est-ce que votre nature humaine, est-ce que votre âme est un moyen? Quoi? Non, c'est pas un moyen cool. Vous avez vu ça? Montrez-moi le moyen. Montrez-moi le texte dans saint Thomas. Ah, allez. Ah non. Ah pas du tout. La grâce est une nette participation à la nature de Dieu. C'est un moyen. Participer à la nature de Dieu.
D'accéder à Dieu.
Quoi?
D'accéder à Dieu.
Écoutez, est-ce que tout ce qui est en dehors de Dieu est un moyen? Qu'est-ce que c'est que votre substance? Est-ce que votre substance est un moyen? Votre âme, est-ce que c'est un moyen? Est-ce que votre personne est un moyen? Vous voyez, il faut faire attention. Il y a cette vision augustinienne que saint Thomas a rectifiée du Dieu est la res, et tout le reste sont des signes. Saint Augustin dit ça. Mais ça, c'est platonicien. Et Saint Thomas rectifie. On est une personne, et la personne n'est pas un moyen. On cesse de le dire. Ne traitez pas la personne, comme on dit aujourd'hui dans le langage, comme un objet. Comme un moyen. La personne est un absolu. Et la grâce sanctifie la personne. La grâce est, dans ma vie divine, ce que mon âme a ma vie humaine. Elle est source de vie. Mon âme est source de vie. Une source n'est pas un moyen. C'est un principe. Et le principe n'est pas un moyen. Vous avez vu en regardant le traité de la grâce que la grâce est un moyen.
Le plan de l'homme, on voit qu'il y a deux moyens pour le retour de l'homme vers Dieu, la loi et puis la grâce.
Et l'Esprit Saint. La loi est un moyen, ça d'accord. Vous voyez, la loi est un moyen et la grâce est une vie nouvelle, une naissance à une vie nouvelle. Alors, je vois ce que vous voulez dire. Mais je vous agace exprès. Il ne faut pas dire moyen. Je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est que la grâce présuppose la nature, donc elle est relative à la nature. Et si elle est relative à la nature, elle est donc un moyen. Non, elle n'est pas un moyen. Elle me permet d'être enfant de Dieu. Et elle me fait enfant de Dieu. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que la grâce sanctifiante, c'est source de ma vie divine. Elle m'a fait enfant de Dieu. Mais surtout ne dites pas ça. En prédication, la grâce est un moyen. Elle me fait enfant de Dieu, ma personne humaine. J'ai une nouvelle personnalité d'être enfant de Dieu. Hein ? Bon, alors, j'espère que vous voyez bien ça. C'est très important de bien voir ça. C'est pas du tout pour minimiser le mariage, pas du tout. C'est pour comprendre ce qu'est la vision même. Il y a des saints qui sont des mères de famille et des pères de famille, qui sont quelquefois bien plus saints que des religieux. C'est bien évident, on est tous d'accord là-dessus. Mais ce qui est vrai, c'est que la vie religieuse, elle est un moyen. Pour ma sanctification. Et le moyen le plus immédiat, qui émane directement des béatitudes évangéliques. Directement. L'esprit de virginité, l'esprit de pauvreté, l'esprit d'obéissance, c'est les béatitudes. J'allais dire, dans un regard maternel de l'Église. Alors, vous voyez, ce sont des moyens qui à la fin, conjoint à la fin. Ça que c'est pas de pur moyen. Et la grâce est source de vie. Donc ça, on ne peut pas le dire de la grâce. La grâce est source de vie. N'hésitez jamais à dire vos difficultés, parce qu'il faut surtout. Alors, la dernière fois, nous avons commencé à regarder les deux dernières fois. Ce qu'est la famille au plan philosophique. Si j'ai fait allusion au sacrement, c'est parce que pour nous, nous sommes chrétiens. Si j'étais devant un auditoire universitaire, je ne parlerais qu'en philosophe. Mais entre nous, il est quelquefois très important de passer de l'un à l'autre pour mieux comprendre ce que le sacrement apporte. La grâce propre du sacrement et l'institution naturelle du mariage. Et c'est le cas unique. C'est pour ça que c'est extraordinaire. C'est le cas unique. Parce que vous n'avez pas ça pour le sacerdoce. Vous n'avez pas une institution naturelle, sacerdotale. Vous ne passez pas devant la mairie avant de recevoir le sacerdoce. Et monsieur le maire, je vais être ordonné prêtre, alors je suis d'abord sacerdoce. Ça s'enracine dans la nature humaine, capable de ça, en puissance obédientielle. Tandis que quand il s'agit du mariage, c'est ça la chose très très intéressante à voir. C'est pour ça que l'Église, vous savez bien, considère qu'un mariage qui se fait entre personnes qui au fond, ne connaissent pas l'Église, qui ne sont pas baptisées, ben, c'est quand même quelque chose, c'est pas rien. On tient compte de ça. Alors, il y a des privilèges particuliers qu'il ne faut jamais oublier dans le droit canon, qui fait que si les époux se convertissent et qu'il n'y en a qu'un qui se convertisse et que l'autre fait la tête et fait des obstacles complets, alors, privilège paulinien. C'est très très curieux. C'est extrêmement intéressant de voir l'aspect de la juridiction surnaturelle et l'aspect naturel. Et il y a eu toute cette histoire extraordinaire pendant la guerre, au début. Ces questions de jeunes juifs adoptés et baptisés très vite dans les familles. C'était à Grenoble. J'étais très lié à ça. Ça m'a beaucoup intéressé. Il y a eu des querelles et des discussions très fortes. Est-ce que la famille qui adoptait avait le droit de baptiser? Adopter des enfants tout jeunes qui, des parents sont morts. Alors, une famille chrétienne adopte des petits juifs. Je crois qu'ils avaient 6 ans. Est-ce que vous avez le droit de les baptiser? Vous avez adopté. Ce sont vos enfants. On s'est fait un pétard à ce moment-là, dans tous les sens. On a essayé de voir tous les moyens d'utiliser ça. Les faire passer en Espagne par un curé basque qui était comme les curés basques, ils sont presque plus puissants encore que les curés bretons. Les anciens curés bretons. Il n'y a plus que le maire. Le maire disparaît. Bon, alors, comprenons au plan philosophique, qu'est-ce qui constitue le mariage? Communauté fondamentale de l'État, de ce que représente la cité politique, à la différence de cette vision platonicienne qui renaît tout le temps, il ne faut pas l'oublier. On est très proche de reprendre ces positions-là. Où la position de l'État repose non pas sur la famille, mais sur l'individu. Ça, c'est la vision platonicienne de la République. Et la vision aristotélicienne, si j'ose dire, que je crois être celle qui respecte le plus la réalité, c'est la communauté familiale. L'époux et l'épouse, la famille, qui est le fondement de la communauté politique, sans exclure les individus. Parce qu'il y a des individus qui ne sont pas mariés, célibataires. Et alors, ils font partie de l'État, c'est évident. Mais la famille a une place particulière. Et voyez, on a la tendance aujourd'hui, regardez attentivement les lois. Et les lois, surtout par rapport aux impôts, c'est toujours là où on voit le mieux. Parce que c'est les commandements les plus express. On a tendance aujourd'hui à ne plus regarder ça. À ne plus regarder les individus. On revient à un style platonicien. Mais la socialisation, indépendamment des partis politiques, c'est pas les partis politiques que je regarde maintenant, c'est l'idéologie qui est compétente. L'idéologie platonicienne va... Elle est constante, elle renaît tout le temps. Alors, ce serait très intéressant d'étudier cela. Je ne le fais pas au point de vue philosophique, je n'ai pas le temps de... Mais ce serait très intéressant, des gens qui sont très compétents dans les lois. Il faut avoir des amis juristes, ou magistrats, ou avocats, et leur parler de ce point de vue-là. C'est très très intéressant de voir comment Il y a un glissement pour supprimer la famille et ne plus regarder que l'individu. Donc la cité platonicienne et la famille, j'allais presque dire, il faut payer pour la famille. Ce serait plus économique de ne pas être en famille. On en vient là. D'où ce qui peut se faire, des mariages clandestins. Le cas s'est reposé. Est-ce que parce que vous êtes chrétien, vous mariez à l'église officiellement, est-ce que vous allez donc payer plus d'impôts? Ça coûte cher d'être baptisé. Ou est-ce que l'église, à ce moment-là, doit dire, bon, on est devant des situations impossibles qui ne sont naturellement pas vraies et pas justes. Alors, pour vous permettre de vivre mariage clandestin, j'ai connu le cas en Suisse. C'était les Français qui venaient se marier en Suisse. Et je comprends très bien que le cas se pose. Ça peut très bien se poser. Alors, il y a la question scandale, il y a la question, vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui se posent. Mais c'est terrible de voir que il y a cette tendance à ne plus protéger la famille au point de vue politique. Alors que la famille est une institution naturelle qui demande d'être protégée parce que c'est quand même le renouveau constant d'un pays. Le jour où il n'y a plus d'enfants, où il y a moins d'enfants, par rapport au nombre de ceux qui disparaissent, c'est des décès. C'est un pays qui est voué à disparaître. Il n'y a plus la vitalité, le renouveau. Et l'État est complice quelquefois de ça. Cette espèce de suicide politique, pas toujours conscient. Il doit y avoir quelqu'un qui est conscient. Puis on se laisse mener. Alors, je crois que c'est là où, vous voyez, la philosophie doit réfléchir là-dessus. Parce qu'on n'a pas le droit d'accepter des politiques antinaturelles. On n'a pas le droit en tant que chrétien. Et en tant qu'homme, on n'a pas le droit. Donc on doit être très attentif là-dessus. Et là, il faut essayer de comprendre comment le mariage et la communauté naturelle fondamentale, c'est le premier point, elle est une communauté naturelle fondamentale. Elle repose sur un choix. Elle a reposé peut-être conventionnellement sur l'union des familles. Froissier, comme ça, un petit livre, je ne sais plus exactement le titre, ce petit livre intéressant, où il montre l'évolution de la famille à travers le temps. Il montre que c'est un fond assez récent, de voir que c'est vraiment les personnes qui se choisissent. Avant, c'était beaucoup plus les familles. C'est pour ça, je crois vous l'avoir déjà dit, c'est pour ça qu'au Concile de Trente, il y a eu cette division entre les théologiens français et les théologiens espagnols par rapport à la validité du sacrement, mariage. Les théologiens français voulaient que le consentement des parents soit nécessaire pour la validité. Et les théologiens espagnols, reprenant la doctrine de saint Thomas, en disant les parents, le consentement des parents n'est qu'un conseil, mais ne regarde pas du tout la validité. Et ce sont les théologiens espagnols qui l'ont emporté, heureusement. Parce que vous voyez aujourd'hui, si le consentement des parents était établi, mais or des théologiens français, au Concile de Trente ont soutenu ça. Le consentement des parents, comme c'était les parents, oui, qui se mariaient. Comme si c'est les désunions familiales, selon la perspective des pères et des grands-pères, qui sont les choses les plus terribles. Tu vois pas ce que tu fais en mariant avec une telle. Tu vois pas. C'est complètement déshonorant pour notre famille. Qui ? Alors le poids de la tradition et de la famille l'emporte sur la liberté. Ça rejoint un droit naturel fondamental. Ce droit de choisir librement celui ou celle qui sera époux ou épouse pour fonder un foyer. C'est pour ça que humainement, il faut dire, point de vue philosophique, on peut le dire maintenant nettement, que la communauté familiale repose sur un acte de choix libre dans l'ordre de l'amitié, dans l'ordre de l'amour d'amitié, de l'homme et de la femme, avec des limites dans l'âge, puisqu'il faut poser un acte de choix à l'ordre. Ça, c'est conventionnel. Ce qui est important, c'est de voir qu'on respecte ce choix libre. Et que la communauté familiale repose sur ce choix libre de l'époux et de l'épouse pour vivre ensemble en vue de la procréation. Mais au plan philosophique, on peut et on doit bien montrer ce qui est premier dans la communauté familiale, c'est ce choix libre de l'époux et de l'épouse. Et ce choix libre doit permettre qu'il y ait vie commune, permettre à l'époux et à l'épouse de vivre ensemble pour que leur amour s'épanouisse. Alors voyez, si la loi fait que vivre ensemble implique des impôts plus forts que de vivre seul, une telle loi est inique. Elle est injuste. Parce que l'État doit favoriser le point de vue du mariage. C'est normal, puisque c'est si l'État cherche le bien-être des hommes au niveau temporel, le bien commun et le bene vivere, c'est ça que doit regarder le bien commun politique. Il faut favoriser la famille. Cette amitié de l'époux et de l'épouse va impliquer le point de vue de la procréation. Alors, là aussi, comme tout ça est très délicat aujourd'hui, hein, faut bien voir au plan de vue naturel ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Éthique fondamentalement humaine, éthique religieuse, éthique chrétienne, puisque la politique présuppose l'éthique. La politique n'est pas seulement l'éthique, mais elle présuppose l'éthique. Toute politique saine au plan philosophique présuppose l'éthique, puisqu'il y a ce choix libre de l'époux et de l'épouse. Et le choix libre de l'époux et de l'épouse, c'est au cœur de l'éthique. De l'éthique naturelle, fondamentalement humaine, qui repose sur la philia, qui repose sur l'amour d'amitié. Donc, cet amour d'amitié a ceci de particulier, c'est qu'il implique cette finalité de surcroît, qui est la procréation. La première finalité étant situation.